Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. J'interromps mon épisode de podcast pour te parler de l'espace Écrire pour soi, la boutique que j'ai fondée et mise en place fin 2023 pour aider les auteurs et les autrices à s'organiser et à gagner en sérénité en écriture. Deux produits y sont déjà disponibles. Le premier, c'est la formation « Planifie ton roman comme un ou une pro » qui t'aide à trouver ta propre méthode de planification de roman et t'apprend à utiliser un logiciel adaptable à tes besoins de A à Z. Le deuxième, c'est un tout nouvel organisateur spécialement fait pour les auteurs et autrices qui est personnalisable et que tu peux utiliser sur la plateforme de ton choix. En plus, je t'offre un cadeau. À l'achat de l'organisateur, tu obtiens 25€ de rabais sur ma formation. Alors n'hésite pas à visiter les liens dans les notes de l'épisode pour en apprendre plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Cette semaine, on se retrouve enfin pour un épisode solo, donc entre moi et vous. Ça fait un petit moment que j'en ai enregistré. Dans les dernières semaines, j'ai enregistré beaucoup d'interviews et il y a d'ailleurs d'autres enregistrements qui s'en viennent dans les prochaines semaines de table ronde, par exemple. Mais voilà, j'avais envie de vous retrouver pour parler d'un sujet que je n'ai pas souvent abordé autant sur le podcast que sur Instagram ou sur mes autres plateformes, la raccourcicriture. Évidemment, c'est un mot que j'ai totalement inventé, donc ça n'existe pas pour de vrai. Mais pour moi, ce que c'est le fait de tout faire, en fait, pour raccourcir son texte, pour enlever des mots, pour enlever le plus de caractères possible. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon texte et surtout de sa taille. Je vais vous dire pourquoi j'ai tenu à faire une raccourcicriture. Je vais vous parler des sentiments que ça a engendré chez moi, de pourquoi mon texte est aussi long et de comment j'ai fait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop mon parcours, La Traverse Rêve, c'est mon premier manuscrit écrit à vie, le seul pour l'instant que j'ai terminé et abouti au point de faire plusieurs réécritures et de l'envoyer en maison d'édition. Et c'est un projet qui faisait 160 000 mots au premier jet. J'avais estimé 160 000 mots et je suis arrivée à 160 000 mots. C'est un gros projet, donc avec 67 chapitres. Et c'est une duologie. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas de message pour me proposer de couper mon roman en deux. Ce n'est pas dans mes plans, c'est pas ce que je veux faire, c'est la dernière chose que je souhaite faire à mon texte. En fait, c'est déjà deux tomes de 160 000 mots environ, et c'est comme ça que ça doit être, selon moi. Alors, comme vous allez le voir dans le podcast, je suis 100% prête à raccourcir mon texte. Vraiment, il faut pas mettre des mots dans ma bouche et se dire que je ne veux pas modifier, changer des choses, raccourcir, mais couper en deux, ça ne m'intéresse pas. Je pense que ça serait une erreur pour la structure générale de ma saga. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Après la première réécriture de mon texte, j'ai ajouté 26 000 mots, donc beaucoup. J'étais à 186 000 mots. Je savais que c'était assez conséquent comme nombre de mots. Ça dépassait évidemment le million de signes. Et chez Licard, qui est une formation d'écriture que j'ai faite, on nous disait beaucoup que 160 000 mots, c'est quand même un gros bébé, que c'était pas nécessairement choquant pour de l'imaginaire, mais que ça serait dur à placer pour une primo-autrice comme moi. Donc j'ai essayé de raccourcir ça dans ma deuxième réécriture, mais j'ai pas pu aller bien loin honnêtement avec le peu de recul que j'avais sur mon texte parce que ça faisait un an et demi que je travaillais dessus. Donc, je me suis rendue à 179 500 mots. Alors, c'est quand même 19 000 de plus que le 160 000 de départ. J'ai néanmoins envoyé comme ça mon texte parce que je trouvais qu'il était bon, qu'il était prêt à être envoyé en maison d'édition. Et j'étais satisfaite de mon travail. Alors, pourquoi plusieurs mois après, j'ai décidé de faire une raccourcicriture alors que je ne l'ai pas fait au départ? Ben en fait, depuis, j'ai eu des refus, évidemment. Donc, j'ai eu des rencontres avec des éditeurs et beaucoup m'ont dit que c'était trop long. Et souvent, on me le disait de façon très crue que probablement personne ne voudrait du roman vu qu'il avait cette taille. Alors, à chaque fois, ça faisait une petite pique au cœur. Ça me blessait pas parce que je conçois que les éditeurs me disaient ça juste parce que selon eux, c'est la vérité. Et c'est une réalité du monde de l'édition que quelqu'un qui propose son premier roman, ben c'est un peu plus difficile si le roman est aussi long et surtout si c'est un roman young adult. Donc là, on n'est pas dans un registre adulte où c'est plus normal d'avoir des grosses briques. On n'est pas non plus niveau autrice qui a fait un best-seller, donc pour qui c'est facile de publier un gros roman comme ça. Et on n'est pas non plus niveau communauté anglophone, où les gros livres sont un peu plus acceptés, j'ai l'impression. Alors, grosse difficulté pour moi. Et deuxième raison, c'est qu'il y avait beaucoup de concours et appels à texte qui n'acceptaient tout simplement pas la taille de roman que j'avais. Donc, souvent, c'était en bas du 900 000 caractères, avec espace comprise, et en bas du 1 million aussi, de temps en temps. Donc, souvent, je ne pouvais pas participer aux appels à texte. Et je dis souvent, mais en fait, c'est vraiment la majorité des appels à texte. Donc, le premier refus que j'avais reçu, c'était un refus par rapport à la taille. La maison d'édition n'avait pas pris la peine de lire mon manuscrit parce qu'il était trop long. Ensuite, quand je suis allée en France, à Paris, à Montreuil, j'ai parlé à des éditeurs aussi qui m'ont dit que en haut du million de signes, c'est rarement une bonne chose, c'est rarement accepté. Et puis, j'ai rencontré des gens aussi par rapport à mon texte qui m'ont dit la même chose que la première maison d'édition. Donc, ça faisait beaucoup la même chose répétée, en fait. Donc, je me suis dit, je vais essayer de prendre les choses en main, changer les choses pour les prochains appels à texte. Et surtout, il y avait un appel à texte en particulier auquel je voulais vraiment participer depuis super longtemps. Donc, je me suis retroussé les manches et j'ai décidé de commencer une raccourcie écriture. Par contre, je ne le faisais pas de gaieté de cœur du tout. Pour moi, c'est super dommage, en fait, de raccourcir un texte qui n'a pas nécessairement besoin d'être raccourci juste pour entrer dans un concours, dans un appel à texte. Mais il y a des gens qui sont venus me donner des témoignages en MP Instagram, dont une personne qui me dit qu'elle avait participé à un concours dans le même genre, qui avait raccourci son texte de, il me semble, 20 000, 30 000 mots, donc de façon hyper conséquente. Et la maison d'édition avait choisi son texte, puis avait demandé de développer certains éléments. Évidemment, l'autrice avait déjà développé ses éléments, elle avait juste enlevé ce développement pour pouvoir participer au concours. Donc ça a été super facile pour elle de rajouter ça. Mais quand on y pense, c'est une énorme perte de temps pour l'auteur de prendre des dizaines d'heures à enlever des passages, à enlever des phrases, à enlever des mots, à enlever des adverbes, à enlever des adjectifs, juste pour rentrer dans un quota de signes, puis pour les remettre après. C'est super dommage, je trouve. De mon côté, ma raccourcie écriture m'a pris plusieurs semaines. Donc, j'ai travaillé quelques heures par jour pendant plusieurs semaines. Donc, ça fait des dizaines d'heures sur une raccourcie écriture. Quand on fait ça, je pense, en tant qu'auteur qui écrit des gros pavés, on sent un peu qu'on perd notre temps. Et évidemment, c'est faux si on réussit à avoir un contrat et que, ben, finalement, notre retravail a payé. Mais quand on est dans le travail et qu'on croit pas forcément en nos chances, même avec cette raccourcie écriture, on a un peu l'impression d'être bafoué dans notre créativité, je dirais. Moi, je l'ai senti comme ça, en tout cas. J'ai eu un peu de mal à travailler cette raccourcie écriture-là. Et surtout, c'est difficile, je trouve, de faire ce type d'exercice parce que, de mon côté, j'avais 405 pages Word. C'est sûr qu'on ne peut pas se fier au nombre de pages étant donné l'interligne, les marges, taille de police, la police, l'interligne, tout ça. Mais voilà, c'est quand même 405 pages Word à réviser et il fallait que je lise chaque phrase, chaque paragraphe, chaque page plusieurs fois pour m'assurer d'avoir enlevé le plus possible pour pouvoir participer à l'appel à texte auquel je voulais participer. Et donc, quand on lit notre texte de cette façon-là, ça enlève toute sa beauté, j'ai l'impression. On ne lit plus du tout le rythme, on ne peut plus évaluer le sentiment que le texte apporte. En plus, on a déjà lu tant de fois notre texte que c'est déjà un peu flou dans notre tête à ce niveau-là, en fait, au niveau fond. Et là, on est tellement concentré sur la forme que toutes les phrases nous paraissent laides, peu importe si elles sont belles ou non, j'ai l'impression. Moi, ça m'a fait perdre beaucoup de confiance en mon texte de le lire de cette façon-là. Je trouve ça dommage. En même temps, quand je relisais les passages de façon normale, c'est-à-dire en le lisant juste une fois, sans le lire 10 fois de suite pour essayer de remarquer n'importe quel petit mot qui pourrait être enlevé, là, j'allais mieux, mais vraiment, c'était un travail de très très longue haleine. Donc, c'était un peu compliqué sur le moral, honnêtement, mais je tenais à le faire. J'ai mis beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup de temps dans ce texte, donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et surtout, l'appel à texte dont je vous parle, ben c'est comme un de mes objectifs principaux depuis que j'écris ce roman-là. Peut-être que ça ne servira à rien, entre guillemets, peut-être que mon texte ne sera pas retenu. Il y a de très bonnes chances, en fait, et je n'y crois pas beaucoup. Mais, selon moi, ça aurait été encore pire de ne pas prendre la chance. Là, je m'en serais sans doute voulu beaucoup. Donc voilà. Ensuite, pourquoi mon texte est aussi long? Je tiens à rétablir la vérité là-dessus parce que je vois beaucoup la narrative sur les réseaux sociaux et l'impression selon laquelle les auteurs qui écrivent de gros romans savent pas gérer un roman, savent pas gérer la tension narrative, savent pas gérer une structure narrative, et c'est faux. Ça se peut, des gros romans. Il y a des gros romans dans le monde et c'est comme ça. Il y a des petits romans, il y a des moyens romans. Toutes les histoires ont leurs particularités et ces particularités-là font en sorte qu'une histoire peut être longue ou courte. Et de mon côté, ben c'est parce qu'il y a un grand changement qui s'opère chez l'un de mes personnages et ce changement-là ne peut pas s'opérer en quelques jours, top chrono. Ça ne peut pas être rapide, il faut qu'il y ait un développement bien pensé, bien ficelé, qui se fait sur plusieurs mois, plusieurs semaines. C'est aussi une quête dans le ciel avec beaucoup de péripéties qui ont un lien avec ce qui se passe dans le tome 2. Tout est ficelé dans mon roman, je suis autrice architecte, donc j'ai vraiment veillé à ce que tout fonctionne ensemble. Et ça fait donc en sorte que toutes mes péripéties, pardon, sont indispensable en fait. Donc, il n'y a pas grand-chose que je peux enlever dans mon roman, mais ça, je vais y revenir plus tard. Vraiment, je considère que le roman, il est long parce qu'il avait besoin d'être long. Et puisqu'on est là, je vais vous faire un petit résumé pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je veux dire, je pense. Donc, la traverse-rêve, ça raconte l'histoire d'Oriane, qui est une traverse-rêve puissante et qui s'entraîne depuis son plus jeune âge dans un seul et unique but, faire payer les Terranes pour ce qu'ils ont fait à sa mère et à sa patrie. Donc, un jour, son père l'informe d'une découverte capitale. Les Terranes ont réussi à créer un dirigeable assez performant pour effectuer de longs voyages entre les îles volantes du ciel. Grâce à cette invention, l'ingénieur Ezra Torres souhaite partir à la recherche d'un artefact magique. Or, il a besoin d'une traverse-rêve pour protéger son équipage des tempêtes oniriques qui sévissent dans le ciel. Oriane, c'est la candidate idéale. On la charge donc d'infiltrer l'expédition d'Ezra et de s'emparer de la relique. Et si elle échoue, son peuple perdra la guerre à coup sûr. Pourtant, plus Oriane passe du temps avec ses ennemis, plus les doutes l'assaillent. Les secrets qu'elle découvre lui font croire qu'on ne lui a pas dit toute la vérité à propos du conflit entre les deux royaumes. Et puis, il y a Ezra qui ne la laisse pas totalement indifférente. Alors, vous l'aurez compris, Oriane, c'est le personnage qui doit faire la grosse évolution dont je vous parlais. Mais aussi, il y a une romance, donc une double intrigue. Alors, ça fait beaucoup de choses à développer. Et j'ai une particularité d'autrice. Ça, j'y crois dur comme fer. Je suis autrice de pavés. Et je vais l'être probablement toute ma vie, dans le sens où je n'ai jamais réussi à imaginer une histoire qui se tenait en one shot, donc en un seul tome. Je n'ai jamais réussi à imaginer une histoire qui pourrait faire 80 000 mots, par exemple. Ça dépasse toujours les 100 000 mots dans mes estimations. C'est comme ça. C'est aussi ce que j'aime lire, donc je pense que c'est assez cohérent, en fait, avec mes goûts de lectrice. J'aime développer mes personnages Et même en lecture, j'aime que les personnages soient développés, que les intrigues soient développées. Je déteste survoler quelque chose dans une lecture. J'aime voir les émotions, j'aime voir les nuances, j'aime voir tous les petits aspects d'une histoire qui pourraient être laissés de côté techniquement, mais que je n'aime pas voir laissés de côté. Je ne sais pas si c'est assez clair, si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, j'aime les histoires développées, j'aime les pavés, c'est ce que j'aime. Et je sais que je ne suis pas la seule lectrice à aimer ça. D'ailleurs, récemment, j'ai fait un reel sur Instagram qui parlait de façon humoristique, bien sûr, du fait que j'ai passé un an et demi à écrire un roman de 180 000 mots, tout ça pour me faire dire « non, c'est trop long » par les éditeurs. Et plein de lecteurs ont réagi en disant « mais moi, j'aime trop les pavés, j'aimerais tellement ça que les éditeurs comprennent plus ça et qu'ils permettent plus de gros pavés en littérature francophone. » Et je suis tellement d'accord avec vous. Seulement, je comprends aussi l'autre côté de la médaille qui est celui des éditeurs. Eux, en fait, ils prennent un risque financier en publiant des gros livres parce que c'est plus cher à imprimer. Et surtout si c'est pour une autrice, une primo-autrice comme moi qui n'a jamais publié, qui n'a jamais fait ses preuves et pour laquelle ils ne savent pas si ça va faire assez de ventes. Alors voilà. Comment j'ai fait maintenant pour faire ma raccourci écriture? Petite vérité que je dois vous donner maintenant. Je n'ai pas du tout touché à l'histoire. J'ai seulement touché la forme. Donc, dès que j'avais la possibilité de raccourcir une phrase, tout en la gardant jolie, évidemment, je le faisais. Donc, comme je vous ai dit, je relisais mon manuscrit phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, page par page, mot par mot même, et je lisais plusieurs fois. Donc, le but, c'était d'enlever le plus de caractères possible sans dénaturer l'histoire, mais aussi sans me poser trop de questions. J'ai donc enlevé beaucoup d'adjectifs qui n'étaient pas indispensables, des adverbes aussi, et je me suis rendu compte que je faisais parfois de la répétition d'idées qui n'étaient pas nécessaires et que je pouvais donc enlever. Ça m'a permis d'enlever un petit morceau de dialogue et quelques phrases par-ci par-là dans le manuscrit. Ça, c'est propre à moi. C'est ma particularité d'autrice. Je me suis rendu compte qu'en premier jet, j'aime beaucoup m'étaler. Ça me permet de mieux apprendre à connaître mes personnages, mon univers, le fonctionnement de mon histoire, tout ça. Donc, c'est pour ça que je m'étale et que je répète parfois mes idées. Ce sera peut-être pas votre cas si un jour vous souhaitez réduire un manuscrit. Mais ça, en tout cas, j'ai pu le remarquer surtout avec le recul que j'avais sur mon manuscrit parce que ça faisait quelques mois que je l'avais touché quand j'ai débuté ma raccourci écriture, pardon. Donc voilà, il y a une scène que j'ai enlevée en tout, dans tout le roman. Et cette scène-là, c'est une scène qui est très importante selon moi, mais qui n'était pas indispensable. Et pour un appel à texte comme celui auquel j'ai participé, auquel il me fallait enlever 169 000 caractères, j'avais pas le choix en fait de couper à certains endroits qui ne faisaient pas plaisir. Donc une scène enlevée, un petit bout de dialogue qui répétait quelque chose qui avait déjà été dit dans un autre dialogue et sinon que de la forme. Évidemment, peut-être que pour vous c'est pas comme ça que ça va fonctionner si vous voulez faire une raccourci écriture un jour, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager quelques conseils que j'avais reçus sur Threads quand j'avais parlé de mon désir, en fait, d'enlever 10 à 30K mots dans mon manuscrit. Évidemment, on m'avait dit le conseil de couper en deux. Encore une fois, je pense que c'est un conseil qui ne se donne pas à quelqu'un dont on connaît pas le roman. On m'a dit se demander à chaque scène est-ce que c'est utile pour l'avancée de l'intrigue, les relations entre personnages. Si oui, il faut creuser au niveau des phrases pour voir si on se répète. Donc, ça, je trouve que c'est un très bon conseil, ça a fonctionné pour moi. On m'a dit d'essayer de voir si je faisais des répétitions sur certains thèmes, sujets, c'était le cas comme je vous ai dit. Parfois, on a vraiment l'impression que quelque chose est tellement important qu'on insiste dessus et qu'on le répète trop jusqu'à ce qu'on donne l'impression au lecteur de l'avoir pris pour un con. Et il faut faire attention à ça. Moi, comme je vous ai dit, j'avais pas envie d'enlever des passages, donc évidemment j'ai travaillé sur la forme. Mais c'est une bonne idée dans ce cas-là d'essayer de trouver des façons de réduire des phrases en les rendant plus courtes, mais sans changer le sens, évidemment. Il y a l'idée aussi de se poser la question, est-ce que si j'enlève ce morceau-là, ça change l'histoire? Est-ce que ça change la perception du lecteur? Si la réponse est non, on peut l'enlever. On peut aussi fouiller dans les descriptions de lieux, de personnages, d'environnements, se demander si c'est réellement pertinent d'être aussi détaillé. Perso, je fais pas tant de descriptions que ça, c'est pas un problème pour moi, je pense. Donc, j'ai pas trop touché à ça, en général, mais je trouvais ça intéressant de vous le dire. Et sinon, autre chose que je voulais aborder, j'ai reçu des conseils, entre guillemets, de personnes qui me disaient de me former à l'écriture. Ça part d'une bonne intention, évidemment, mais c'est un peu dérangeant de recevoir ça quand on est auteur et qu'on a fait des formations d'écriture au pluriel, qu'on a fait un certificat de création littéraire, qu'on a étudié en littérature. Vraiment, quand on connaît pas quelqu'un sur Internet, il vaut mieux pas donner ce genre de conseils, je pense. Vraiment, c'est pas parce qu'on écrit un gros roman qu'on ne sait pas gérer une histoire. Pitié, arrêtez de faire ce raccourci dans votre tête. Bref. Je sais bien que mon audience, vous qui m'écoutez sur ce podcast, n'êtes pas du genre à faire ça, mais je pouvais pas m'empêcher de mettre ce petit disclaimer dans le podcast. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ce retour d'expérience vous aura été intéressant, vous aura été utile. Si vous avez envie de parler de raccourci écriture avec moi sur Insta, ça va me faire plaisir d'entendre parler de votre expérience par rapport à tout ça. Mais en tout cas, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite que vos projets se portent bien et que vous aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide à le faire connaître et surtout, ton interaction est une grande source de motivation pour moi. Tu peux me retrouver sur Instagram et toutes les plateformes citées dans les notes. J'y poste du contenu sur l'écriture, la motivation et la productivité. En attendant le prochain épisode, n'oublie pas de prendre du plaisir à écrire pour toi.